RFI, 10h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal avec Jeanne Bartoli.
Bonjour à tous. Dans ce journal, une nuit de raids et de bombardements sur le sud de Beyrouth, la capitale libanaise. L'aviation israélienne multiplie ses raids contre le Hezbollah. Des immeubles entiers se sont effondrés. Nous sommes au Liban en début de journal. À la une aussi, une nouvelle enquête ouverte en Ukraine au sujet d'une exécution présumée de soldats ukrainiens par l'armée russe. On parlera des Tunisiens appelés aux urnes pour la présidentielle. Vous retrouverez Amira Swilem en direct de Tunis dans le journal de 10h30. Et puis reportage à Madagascar. À Antananarive, avec une exposition sur les oiseaux, sentinelles de la nature. Excellent indicateur de l'état de l'environnement. L'armée israélienne continue donc de frapper massivement le sud de Beyrouth. Plus de 30 frappes cette nuit, selon l'agence officielle de presse libanaise. Et peu après, des appels israéliens à évacuer plusieurs quartiers de ce fief du Hezbollah. Ce matin, le premier ministre libanais, Najib Mikati, appelle à faire pression sur Israël pour parvenir à un cessez-le-feu. Récit à Beyrouth, Paul Khalife.
Les habitants de Beyrouth ont sans doute passé la nuit la plus difficile depuis l'élargissement du conflit avec Israël à la mi-septembre. L'aviation israélienne s'est littéralement déchaînée sur la banlieue sud de la capitale, désertée par la plupart de ses habitants ces deux dernières semaines. Une trentaine de raids ont visé divers quartiers de cette région, provoquant de puissantes explosions entendues dans tout Beyrouth et jusqu'au nord du mont Liban, à plus de 60 km. Ce matin, un épais nuage de fumée se dégageant de plusieurs incendies encore actifs recouvre la banlieue sud, et une odeur de brûlé et de poudre a envahi les autres quartiers de la capitale. Des riverains affirment que de nombreux immeubles ont été entièrement détruits par le déluge de feu qui s'est abattu sur la région. Certains raids se sont produits près de la route menant à l'aéroport international de Beyrouth, où le courant électrique a été momentanément coupé. Des images presque surréalistes, prises au moment de bombardement à quelques centaines de mètres de l'aéroport par des passagers au décollage ou à l'atterrissage, font le tour de la toile. L'intensité des bombardements empêche les opérations de secours, notamment sur un site où était visé vendredi un haut dirigeant du Hezbollah, Hashem Safieddin, pressenti pour succéder à Hassan Nasrallah. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et les combats se poursuivent aussi dans le sud du Liban entre l'armée israélienne et le Hezbollah. La situation au Proche-Orient qui s'est invitée, vous le savez, au 19e sommet de la francophonie qui a pris fin hier en France avec à l'issue de ce rendez-vous une déclaration commune de solidarité et un appel au cessez-le-feu pour le Liban. Nicolas Roca a suivi le sommet pour RFI.
Alors que l'un des états fondateurs de la francophonie est sous le feu des frappes israéliennes, impossible de faire l'impasse sur la crise au Proche-Orient. Après de longues tractations, les membres de l'OIF se sont entendus sur un texte demandant un cessez-le-feu et condamnant les actions indiscriminées contre les civils. Mais la déclaration ne fait pas mention d'Israël, ce que regrette Ziad Makari, ministre de l'Information et chef de la délégation libanaise.
On aurait voulu qu'il y ait une condamnation très claire des pays francophones, mais malheureusement, on n'a pas pu même nommer Israël dans la déclaration. Parce que à chaque fois qu'on nomme Israël, il y a beaucoup de pays qui sont solidaires avec Israël, malheureusement.
Emmanuel Macron a malgré tout défendu l'importance d'avoir trouvé une position commune.
Je ne sous-estimerai pas l'importance de cette déclaration de soutien au Liban et de solidarité au Liban. Elle est importante et c'est une voie claire de l'OIF.
La Roumanie, l'Albanie ou encore le Canada ont émis des réserves à une résolution sur les crises mondiales. Celle-ci mentionne Israël pour rappeler l'obligation de protéger la population palestinienne en zone occupée. Mais preuve des divergences au sein de l'organisation, le président français est allé nettement plus loin.
Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre.
Il a également assuré que les armes françaises n'étaient pas utilisées pour mener des combats à Gaza.
Nicolas Roca et cette déclaration d'Emmanuel Macron qui a vite tourné à la crise diplomatique avec Israël. Hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé qu'Emmanuel Macron ainsi que d'autres pays occidentaux qui appellent à un embargo sur les armes livrées à Israël pour Gaza devraient avoir honte. Israël ou par ailleurs l'armée est en état d'alerte par crainte d'attentat à la veille, ce sera demain, du premier anniversaire des massacres perpétrés par le Hamas en Israël, événement qui a été également le point de départ de la sanglante guerre de représailles menée à Gaza. À Gaza, où une mosquée transformée en abri pour les déplacés à Deir el-Balah a été prise pour cible cette nuit, faisant 21 morts selon la défense civile de Gaza. L'armée israélienne dit de son côté avoir mené une frappe, je cite, précise sur des terroristes du Hamas. Une guerre qui en a occulté une autre, le conflit en Ukraine se poursuit depuis maintenant près de 2 ans avec là aussi son lot d'exactions. Le procureur général d'Ukraine a annoncé avoir ouvert une nouvelle enquête au sujet d'une exécution présumée de soldats ukrainiens par l'armée russe. Ce n'est pas la première fois que des vidéos circulent et Kiev alerte sur l'augmentation des crimes de guerre russes contre ses soldats. À Kiev, Emmanuel Chaz.
Les images sont insoutenables. Elles montrent 16 soldats ukrainiens à terre ayant rendu leurs armes dans le secteur de Pokrovsk, dans la région est de Donetsk. Tous sont sommairement exécutés par des soldats russes. Selon Andriy Kostine, le procureur général d'Ukraine, il s'agirait de l'exécution de masse la plus importante commise par les Russes envers les soldats ukrainiens directement sur la ligne de front. Et ces faits correspondent à une volonté militaire et politique de la part de Moscou de torturer et de tuer au mépris des conventions de Genève régulièrement violées sur le territoire ukrainien. Une autre vidéo a fait le tour des médias et réseaux sociaux cette fin de semaine. Elle montre un soldat ukrainien en sous-vêtements dans un champ, lui aussi mis à mort par ses bourreaux. Ce genre d'exécution s'est multiplié cette année, suscitant l'indignation et le choc ici en Ukraine. Selon Kiev, au moins 93 soldats auraient été exécutés dans des conditions similaires. Plus de 50 enquêtes ont déjà été ouvertes pour déterminer les circonstances de ces meurtres et identifier les victimes ainsi que les coupables, afin de pouvoir traduire ces dernières en justice. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
L'Ukraine, où le chef de l'administration militaire de Kiev annonce que la Russie a lancé une vague de frappes contre Kiev, Odessa et d'autres villes ukrainiennes au cours de la nuit. Tous les projectiles auraient été détruits lors de leur approche, fait savoir la même source. En Tunisie, c'est peu dire qu'il est archi-favori. Kais Saied brigue un nouveau mandat à la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert il y a maintenant une heure. Face à lui, 2 candidats, l'ex-député Zouer Marzaoui et l'homme d'affaires Ayachi Zamel, emprisonné dès confirmation de sa candidature pour une affaire de faux parrainage supposé. Nous serons à Tunis avec Amira Swilem dans le prochain journal, dans une demi-heure. La politique aux États-Unis, à présent un peu moins de 3 mois après y avoir été blessé à l'oreille dans une fusillade, Donald Trump était de retour ces dernières heures à Butler, dans l'État-clé de Pennsylvanie. Parmi les personnes invitées lors de ce meeting, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pour lancer un appel à la mobilisation des électeurs. Enfin, sensibiliser par le sensible, montrer la nature et inculquer comment la respecter, loin des discours moralisateurs depuis hier et jusqu'au 17 octobre. La 2e édition de l'exposition Interpeller le vivant accueille ses visiteurs à Antananarive, la capitale malgache. La thématique choisie et sur laquelle la douzaine d'artistes ont croisé leur création est celle des oiseaux, ces sentinelles de la nature, excellent indicateur également de l'état de l'environnement. Reportage Sarah Teto.
Pour pénétrer dans l'exposition, il faut d'abord traverser un tunnel, signé Verena Conrad, qui propulse le visiteur dans une forêt artificielle. Les feuilles qui tapissent les murs ont été réalisées avec des emballages, les chants des oiseaux créés par ordinateur.
Là, on est dans l'artifice.
Yubi Rabaritzone est la curatrice de l'exposition.
Bientôt, est-ce qu'on sera obligé d'être dans des forêts qu'on fabrique?
Suspendues au plafond, des têtes d'oiseaux endémiques de Madagascar peintes sur des canettes écrasées. On les doit à l'artiste plasticien Yandi Ranjamanjous.
Pour moi, les oiseaux représentent la résilience, car ils existent encore aujourd'hui, même si nous avons modifié leur habitat. Nous avons construit beaucoup de maisons. Ils représentent aussi l'adaptation, parce qu'ils s'adaptent à leur environnement changeant où ils s'éloignent et trouvent d'autres endroits pour survivre. Peut-être que je ne coupe pas directement d'arbres, mais sans doute que le lit dans lequel je dors est fait de bois provenant d'un arbre qui faisait partie d'un écosystème quelque part.
À ces œuvres suspendues répondent les vers de l'écrivain Dzhuar Ravalus.
Les oiseaux d'Inde bientôt n'existeront plus, ni ici ni là, nulle part. Ne demeurera que la mélancolie des ailes perdues.
Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et c'est un reportage à retrouver sur le site et sur l'application d'RFI, RFI Pure Radio. Vous écoutez la radio du monde. Il est 10h, passé de presque 10 minutes ici à Paris. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Tout de suite, vous retrouvez Afrique. Mais